Une vague de grippe déferle sur le pays. Vague ou raz de marée? Car le souvenir des épidémies antérieures disparaît dans ce concert général de tout et d'éternuement.
Mécanique des épidémies.
Les malades ne se comptent plus. On assiste dans tous les domaines à une sorte de disparition progressive de ce que la faculté nomme l'ingrippatus homo, l'être non grippé.
Vous l'avez sûrement déjà eu. Mais certains hivers, beaucoup ne s'en remettent pas. 1918, 1977, 2009. Pourquoi ces années-là sont plus mortelles que d'autres? Peut-on les prévoir? En cherchant à résoudre ce mystère, des scientifiques de génie vont découvrir incidemment la pénicilline, l'ADN. Mais on va mettre des décennies pour le connaître vraiment, le virus de la grippe. Le médecin Renaud Piaroux va vous guider dans cette enquête épidémiologique. Remontez avec lui jusqu'à l'origine de la grippe, pour mieux anticiper notre avenir, très probablement grippé.
Troisième saison, la grippe.
Habituellement, une pandémie, c'est une maladie infectieuse qui diffuse à toute la planète. Mais dans la grippe, on va distinguer les cas où finalement la diffusion est liée à un virus que l'homme connaît déjà et qui va faire assez peu de dégâts, de ce qu'on va appeler pandémie de grippe, lorsqu'on a affaire à un virus nouveau que l'homme ne connaît pas et qui va faire beaucoup plus de dégâts.
Premier épisode, la terrible grippe espagnole. 1918-1919.
La grippe espagnole est peut-être une chose dont on est sûr, c'est qu'elle n'a jamais débuté en Espagne. Elle a débuté en 1918, on était en guerre. Donc il était impossible d'aller parler d'autre chose que de bonnes nouvelles et l'existence d'une épidémie qui tue beaucoup de monde, en particulier des personnes jeunes, ne fait pas partie, à proprement parler, des bonnes nouvelles qu'on peut donner en temps de guerre. Si bien que la grippe pouvait avoir diffusé et faire des dégâts déjà très importants en Europe de l'Ouest sans qu'on en ait la moindre nouvelle dans les journaux. Et c'est simplement en Espagne que l'histoire a été connue. Et par simplicité, on appelait ça grippe espagnole.
Une épidémie, Forrest. Une guerre à laquelle on ne s'attendait pas.
La grippe? Mais c'est anodin.
Il ne s'agit pas de n'importe quelle grippe. Celle qui nous tombe dessus est d'une rare violence.
Et pourquoi pas le choléra? Il sévirait dans les tranchées.
Forrest, il a suffi de 3 jours pour que 70% de la population madrilène soit infectée. 90 000 malades rien qu'à Madrid. Le roi Alphonse XIII est gravement atteint depuis qu'il a assisté à l'office du 27 mai dans la chapelle du palais où se trouvait une foule immense. La quasi-totalité du gouvernement est aussi alitée.
La grippe espagnole, alors?
La pandémie de grippe espagnole est la pandémie qui a tué le plus d'hommes de toute l'histoire de l'humanité. Elle a tué plus de monde que la peste noire au Moyen-Âge. Alors ça, c'est en nombre absolu. En nombre relatif, la peste noire a fait plus de dégâts, par exemple, en Europe, en tuant un tiers de la population, que la grippe espagnole. Après, c'est un sujet intéressant parce que c'est la première pandémie pour laquelle on a effectivement une documentation qui permet de comprendre quel est l'agent pathogène exactement et comment il a diffusé, comment il s'est modifié au cours de la pandémie, d'une vague à l'autre. Et finalement, c'est aussi la première fois où la médecine moderne s'attaque à la problématique d'une pandémie. Il y a une tentative d'approcher la pandémie par des approches modernes et non plus par des théories anciennes, des humeurs ou des miasmes, des choses comme ça, comme on pouvait avoir par exemple pendant les pandémies de choléra au 19e siècle. On voit au tout début de l'année 1918, au Kansas, dans le comté de Haskell, donc un endroit avec pas mal d'élevage, à la fois des bovins, mais aussi des ovins, mais aussi des volailles, il y a une épidémie inhabituelle avec quand même une mortalité plus importante qu'ailleurs. Et puis, quelques jours après, quelques semaines après, cette épidémie va se déclencher dans un camp de militaires. On est en année 1918, les États-Unis sont en train de former une armée très importante qu'ils envoient ensuite en Europe pour aller combattre l'Allemagne. Et pour les former, ils ont monté des camps immenses où il y a des dizaines de milliers de soldats. Et dans ce camp, au Kansas, se déclare une épidémie. Alors, on ne sait pas que c'est de la grippe. D'ailleurs, ce sera le sujet de quelque chose, mais qui provoque des formes déjà assez graves et des décès chez un certain nombre de soldats, pourtant jeunes, en bonne santé a priori, puisqu'on les envoyait faire la guerre. Et donc, cette épidémie va se développer dans ce camp, puis ensuite passer d'un camp à l'autre, et petit à petit diffuser, jusqu'à arriver, quelques semaines après, à Brest, par bateau évidemment, et ensuite diffuser en France, et puis en Angleterre, de l'autre côté du front en Allemagne, et finalement en Espagne. C'est une première vague épidémique, déjà inquiétante, mais pas forcément extrêmement meurtrière. Et puis au mois d'août de la même année, des bateaux reviennent d'Europe, arrivent aux États-Unis, et là on a affaire à une forme extrêmement meurtrière, avec des personnes qui meurent en quelques jours de détresse respiratoire aiguë. On voit ça à Boston, on voit ça à Philadelphie, on voit ça dans les ports de l'Est des États-Unis. Puis ensuite, ça va rediffuser, d'abord de camp militaire en camp militaire, puis dans la population civile, avec des épisodes où on voit que certaines villes s'arrêtent complètement, il n'y a plus personne qui sort, il y a des morts presque dans chaque foyer, en tout cas des malades graves dans chaque foyer, et surtout des personnes jeunes qui meurent. Et qui meurent en ayant des difficultés respiratoires. Certains se posent même la question, est-ce que c'est pas la peste noire qui revient? Est-ce que c'est simplement une grippe? Est-ce que c'est pas autre chose? Et c'est toute la difficulté de la grippe, justement, de donner des formes de gravité extrêmement diverses selon les modifications du virus liées à des recombinaisons génétiques, liées à des mutations successives.
Tu les as vus?
Ils sont allongés sur le côté, à demi assis. Respiration brève, visage plombé, lèvres et ongles bleus. C'est fou comme ils s'agitent dans leur lit. Ils sont couverts de sueur. Ils crachent de la mousse blanche, sanguinolente. Tout d'un coup, survient une pluie de râles. Et c'est l'asphyxie. La mort, quoi.
T'entends? À côté, on dirait des râles. Sauvons-nous.
La particularité de la pandémie de grippe espagnole est justement que les personnes les plus touchées avaient entre 20 et 40 ans. Plus de la moitié des morts avaient entre 20 et 40 ans, ce qui est quelque chose qui fait vraiment la différence parce que là, c'est les jeunes, c'est les soldats essentiellement qui vont mourir de cette grippe. Alors qu'ils étaient en parfaite santé quelques jours avant. C'est pas une personne de 80 ans qui se trouve en maison de retraite et qui est déjà fragilisée avec beaucoup de traitements, etc. Même si aucune mort n'est acceptable, il y en a des plus étonnantes que d'autres. Quand on a une pandémie en temps de guerre, la priorité est à l'armée. Donc les soignants sont recrutés par l'armée. Il y a moins de personnes pour s'occuper des populations civiles. Et il y a les nécessités du service. Si on a un camp militaire avec une épidémie importante, ça s'est répété des dizaines de fois. Si on n'a pas l'ascendant sur les généraux, eux, ils s'en foutent. Ils ont besoin que les militaires aillent d'un endroit à l'autre, embarquent sur un bateau, et tant pis s'il y a de la casse, puisque c'est un peu l'état d'esprit des militaires, surtout lors de la Première Guerre mondiale. Et donc, finalement, que les soldats tombent malades, en plus, la grippe, vue par un militaire, c'est pas forcément quelque chose de très grave, ne leur importait pas jusqu'au moment où ils se retrouvaient vraiment devant un quart, par exemple, de leur troupe hospitalisée. Là, ça commençait à les gêner. Mais finalement, les militaires, dans le cadre de la Première Guerre mondiale, ont rien fait pour limiter la transmission.
Comment ça se passait en 18?
Ça se passait très mal.
Oui. Que faisait le médecin à ce moment-là, alors?
Il faisait ce qu'il pouvait. Vraiment, j'ai des souvenirs vraiment pénibles et affreux quand vous faites évoquer ce temps. parce que à cette époque j'étais jeune médecin et bien entendu aux armées et j'ai vu mes camarades et soldats qui avaient pu résister à tant de fusillades et de bombardements et de la guerre, terrassés par la grippe et avec des complications pulmonaires très graves. Et nous n'avions pas vraiment de médicaments actifs. Vous savez, on soutenait le cœur avec de l'huile camphrée, de la digitale, on faisait respirer l'oxygène, ce qui ne sert pas à grand-chose. Nous avions des moyens très, très mesquins, très faibles pour lutter, et nous étions vraiment malheureux.
Et on peut même penser que cette deuxième vague particulièrement grave a pu être favorisée par la guerre, dans la mesure où l'essentiel du problème se pose parmi les soldats, soit dans les camps d'entraînement, soit sur le front. Finalement, quand ils tombaient très gravement malades, on les regroupait. Et on facilitait la transmission, puisqu'il n'y avait pas tellement de lutte. Les malades n'étaient pas isolés les uns des autres. Ça veut dire que le virus pouvait facilement se transmettre dans les camps d'entraînement, dans les zones militaires, même quand les gens étaient gravement malades. Et donc, ça faisait que d'une génération de virus à l'autre, on pouvait même avoir une aggravation et un virus qui devient de plus en plus pathogène, causant de plus en plus de symptômes.
Alors, à ce moment-là, c'est cette grippe espagnole qui s'est déclarée et on nous a relevé encore là de ligne et on nous a envoyé en quarantaine dans un coin qu'on était tout seul, quoi. Et je jure que là, il y a eu beaucoup de gars qui en sont morts et ça faisait mourir tous les gars costauds, tous les gars grands, forts.
Dans un cas normal, si on prend une épidémie avec des formes graves, on va essayer de trouver les personnes fortement malades et on va les isoler. En période de paix, c'est ce qu'on fait. On les regroupe pas quelque part et on ne laisse pas les gens dans leur dortoir tous ensemble puisqu'ils sont malades, tant pis, on verra bien. Et donc, on va plutôt écarter de la circulation et de la transmission d'homme à homme les formes les plus graves. Donc, peut-être que l'explication de la gravité très particulière de cette deuxième vague tient en partie aussi sur le comportement que les militaires ont pu avoir pour prendre en charge les patients. Enfin, pour eux, ce n'étaient pas des patients. La pandémie ne s'est pas contentée de toucher les pays en guerre et l'Espagne. Des pays comme l'Inde ont été encore plus sévèrement touchés, sauf qu'on a assez peu d'informations, mais on pense qu'il y a eu au minimum 20 millions de morts en Inde liés à cette pandémie. On la regarde avec notre regard occidental et avec des informations peut-être plus précises sur ce qui s'est passé aux États-Unis en particulier. Mais en fait, c'était quelque chose qui a été extrêmement meurtrier dans d'autres pays. Et plus un pays est peuplé, plus on peut avoir des mortalités extrêmement élevées. Et au total, 100 millions de morts pour la population du monde à ce moment-là, c'est à peu près 5%.
Face à ces millions de morts causés par la grippe espagnole, la communauté scientifique se mobilise pour tenter de répondre à la question cruciale. D'où vient cette maladie qu'on appelle grippe? Alors qu'ils ne connaissent même pas encore le principe du virus, les scientifiques se lancent dans une formidable course au progrès.
Dès le début, une hypothèse est mise en avant. Un grand scientifique allemand qui s'appelle Pfeiffer a découvert une bactérie qu'on va trouver facilement dans les voies respiratoires. Mais cette bactérie, il considère qu'elle est responsable de la grippe et donc on va l'appeler Bacillus influenza. Influenza pour la grippe.
Deuxième épisode, la rocambolesque découverte du virus.
Jusqu'en août 1918, ce débat n'a pas lieu parce que on n'est pas intéressé. Ces épisodes de grippe dans les camps militaires n'ont pas fait énormément de morts. Ils ont été spectaculaires. Mais enfin, il n'y avait pas péril en la demeure. Et là, à partir d'août 1918, la situation est beaucoup plus grave, beaucoup plus sérieuse. Et donc, dans tous les pays, les scientifiques vont se mettre à chercher la cause de cette pandémie, de ces infections, ces grippes. Mais est-ce que c'est vraiment la grippe? On ne sait pas. Dans les pays d'Europe, la recherche va avoir quelques difficultés parce qu'il y a la guerre. Il y a la guerre, donc beaucoup de médecins, finalement, sont mobilisés pour la prise en charge des blessés. Et finalement, il y a peu de moyens, il y a un peu moins de moyens. Aux États-Unis, c'est un peu le contraire. C'est bien sûr que beaucoup de gens sont mobilisés, mais la médecine américaine avait du retard sur la médecine européenne. Et là, elle a tout d'un coup la possibilité de se moderniser. Et donc, un certain nombre de scientifiques vont s'attaquer à ce problème. Donc, la première chose, c'est est-ce que c'est ce bacillus influenzae trouvé par Pfeiffer qui est la cause de la grippe. Donc, logiquement, la manière de faire, c'est d'aller chercher sur les malades et puis éventuellement même sur les autopsies, d'aller chercher le virus et de regarder. Une bactérie et un virus, ce n'est pas la même chose. Une bactérie, ça se voit au microscope, ça peut se colorer, ça pousse sur certains milieux de culture. Globalement, c'est quelque chose qu'on peut toucher, en quelque sorte. On peut voir, même si c'est difficile, un virus, il n'est pas visible au microscope. On déduit son existence un peu par élimination. On filtre. Et il reste quelque chose, et ce quelque chose donne une maladie, et on dit c'est un virus. Il faudra longtemps encore avant de pouvoir voir les virus, par exemple en microscopie électronique. Est-ce que le bacillus influenzae est l'agent de la grippe? Donc on cherche sur les prélèvements. Et au début, les prélèvements donne pas grand chose parce que en fait c'est une bactérie qui est exigeante en termes de facteurs pour pouvoir être cultivée. Et là c'est le piège. Qu'est-ce qu'on va trouver comme bactérie dans les poumons de personnes qui ont la grippe? Cette bactérie, ce bacillus influenzae, mais on va trouver aussi des pneumocoques, des streptocoques, des staphylocoques, qui donnent des infections pulmonaires graves. Alors le top du top, c'est Alexander Fleming, médecin britannique. Alexander Fleming met en culture une boîte de pétri et il y avait du staphylocoque. Et il regarde ça et tout d'un coup, il s'aperçoit au bout de deux jours qu'il y a quelque chose à inhiber la culture, à empêcher le staphylocoque de pousser. Il le regarde de plus près, c'est un champignon, c'est une moisissure. Il l'appelle Penicillium. Qu'est-ce qu'il en fait? Il se dit pas, chouette, j'ai trouvé un truc qui tue les staphylocoques. Il est tellement bloqué sur l'histoire, faut chercher le bacillus influenzae, qu'il se dit, tiens, j'ai trouvé un truc qui va permettre de faire un milieu de culture permettant d'isoler plus facilement le bacillus influenzae. Ce pénicillium n'arrive pas à tuer le bacillus influenzae. Et pendant 10 ans, ce truc-là, ce pénicillium, et sa vertu de tuer les staphylocoques, mais aussi les streptocoques, les pneumocoques, des tueurs terribles dans l'humanité, n'est pas pris en compte comme le futur antibiotique, la pénicilline, mais simplement comme un adjuvant qu'on met dans un milieu de culture pour avoir le bacillus influenzae. Et quand même, avec l'aide de 2 autres personnes plus tard, il obtiendra le prix Nobel parce que effectivement le pénicillium, quand même, c'était le premier vrai antibiotique qu'on a trouvé et qui avait des propriétés extraordinaires pour soigner plein d'infections. Mais on était tellement focalisé à l'époque sur le bacillus influenzae qu'ils ne se sont pas intéressés à cette propriété. Ils avaient devant eux un système où il y avait quelque chose qui empêchait des bactéries tueuses de pousser. Et ils se sont juste posé la question, ces bactéries, elles m'embêtent parce qu'elles ne me permettent pas de voir le bacillus influenzae. Alors, d'autres chercheurs avaient peut-être un passé qui pouvait les aider à trouver. En particulier, il y en a un qui s'appelle Paul Lewis. Il est déjà connu parce qu'il a démontré que la polio était une maladie lié à un virus, en filtrant toutes les bactéries, tout ce qui est un peu gros, il restait quelque chose qui provoquait cette maladie. Et il a même, grâce à ça, pu entraîner une immunisation qu'il a tentée chez les singes. Et il a montré qu'il pouvait faire un vaccin contre le virus de la polio chez le singe. On n'en est pas encore au vaccin chez l'homme, il faudra pas mal de temps. Mais il a trouvé cette première étape qui est une étape essentielle. Il est à Philadelphie. Et il y a urgence. Il y a urgence, là, tout d'un coup, on est en août ou en septembre 1918. Il faut aller vite, il faut trouver très vite le microbe. Et l'idée, c'est de l'injecter à des chevaux, leur faire un maximum d'anticorps, faire un sérum de traitement ou trouver un moyen d'en faire un vaccin. Aller très, très vite. Et on peut pas se lancer dans une recherche en virologie à l'époque. On ne connaissait rien des virus, vraiment, on n'en avait que leur ombre en quelque sorte. Et donc il choisit, comme pratiquement tous les chercheurs, d'aller dans le sens de mettre en évidence les meilleures conditions de culture, etc. Il va travailler là-dessus et finalement il va se convaincre petit à petit que l'agent de la grippe, c'est bien Bacillus influenzae. Il continue à travailler, on n'avance pas de toute façon, la guerre se termine, la pandémie se termine, enfin à peu près, il reste toujours des cas, et il repart sur d'autres thématiques comme la tuberculose, mais il garde un peu un œil là-dessus, il se met à travailler avec un vétérinaire qui s'appelle Richard Schopp, américain, plus jeune que lui. Et ensemble, ils sont toujours en train d'essayer de trouver ce virus. Et ils reviennent quand même là aux méthodes précédentes, c'est-à-dire se dire, ben, on va essayer de filtrer. Et puis, les choses se passent pas trop bien pour lui, parce qu'il n'arrive pas à trouver, c'est trop lent. Ses patrons commencent à trouver qu'il n'est pas si efficient que ça, alors qu'il est considéré comme vraiment un des plus intelligents. Enfin, vraiment, il impressionne par son intelligence. Et un peu en désespoir de cause, il part sur l'investigation d'une épidémie de fièvre jaune au Brésil. Il donne très peu de nouvelles et on apprend au bout de quelques mois qu'il est mort de la fièvre jaune. Que s'est-il passé? On pense à une contamination de laboratoire. Alors pourquoi je parle de Paul Lewis? C'est que malgré tout, il va découvrir le virus de la grippe, ou plus exactement, il va co-signer l'article qui découvre le virus de la grippe chez le porc, avec Richard Schopp, mais 2 ans après. Alors, il ne s'est pas aperçu qu'il avait découvert le virus de la grippe, mais les travaux qu'il avait menés n'étaient pas loin d'aboutir, et quand ils ont abouti, ils ont mis en évidence le virus de la grippe. Mais là, on est en 1931, et il est mort en 1929. 2 ans après, utilisant les mêmes méthodes, des chercheurs anglais, il y en a un qui s'appelle Smith, c'est le premier auteur, vont publier un article montrant qu'ils ont enfin réussi à trouver le virus de la grippe chez l'homme en utilisant les mêmes méthodes que celles publiées par Schopp et Lewis 2 ans avant. Dans cette galerie portrait, je pense qu'il ne faut pas passer sous silence Oswald Avery. Lui, il va travailler sur ce bacillus influenzae. Il va réussir à trouver les bonnes méthodes, les bonnes conditions de culture. Il progresse très, très bien. Il semble se dire, ben oui, ça doit être ça. Et puis, alors, il va faire une expérimentation, une première expérimentation où il va isoler un bacillus influenzae. Et puis ensuite, il va prendre des bacillus influenzae chez d'autres malades. En fait, il s'aperçoit qu'il n'y a pas un bacillus influenzae, il y en a plusieurs. Il y en a même beaucoup. C'est quelque chose qui n'est pas étonnant. Avery a beaucoup travaillé sur le pneumocoque. Et sur le pneumocoque, on sait qu'il y a le pneumocoque type 1, le pneumocoque type 2, le pneumocoque type 3, etc. Donc ça ne l'a pas plus que ça étonné, mais ça l'a un peu désarçonné. Et là, il s'est dit, mais on cherche l'agent d'une pandémie, donc quelque chose d'unique. Et je tombe sur plusieurs choses. Donc, c'est beaucoup plus probablement un germe qui vient profiter de la pandémie pour donner des infections que la cause initiale de la pandémie. Et finalement, il est un des rares à se dire « c'est pas le bacillus influenzae ». Mais par contre, il se met pas à la recherche du virus. Parce que lui, finalement, ce qu'il aimait, c'était le pneumocoque. Donc il travaille sur son pneumocoque. Il va mettre des années, creuser. Il s'aperçoit que les pneumocoques, il y en a qui sont dangereux. Ils ont une capsule autour d'eux, un peu comme les MMFs ont une petite capsule sucrée autour. C'est un sucre aussi. Et ceux-là sont dangereux. Par contre, des pneumocoques qui n'ont pas la capsule donnent peu de maladies. Le système immunitaire arrive bien à s'en débarrasser. Avery va passer des années à essayer de comprendre ce mystère. On est en 1944. Enfin, il publie le résultat de son travail avec deux collègues. Il découvre qu'une molécule qui avait été identifiée au 19e siècle, dont on se disait qu'elle ne servait pas à grand-chose, s'appelle l'ADN. Cette molécule est responsable de l'information que le pneumocoque non capsulé a pu récupérer depuis ses pneumocoques capsulés morts. Il a trouvé l'ADN qui est le secret de la vie, en quelque sorte. Tout passe par ces acides nucléiques, l'ADN, l'ARN, c'est ça qui fait la vie. Il découvre la fonction de l'ARN. Et comble d'ironie, ça lui fait perdre le prix Nobel. Parce que sa découverte est tellement révolutionnaire, le jury Nobel dit quand même, là, faut vraiment être certain, on va prendre un peu de recul, on va voir ce qui se passe, etc. Quelques années après, Watson et Crick découvrent la double hélice et on est parti. C'est le début de la biologie moléculaire, c'est le début de la science moléculaire qui est maintenant la nôtre. Mais le temps que tout ça se fasse, le pauvre Oswald Avery est mort. Et donc, il est mort sans avoir le prix Nobel. On a donné plutôt son nom à un cratère sur la Lune. Quand on fait le bilan de ce qui a été trouvé, on a fini par trouver le virus de la grippe. D'abord, on l'a trouvé chez le cochon, on ne s'y attendait pas. Au moment de la pandémie, c'est passé chez l'homme et c'est passé chez le cochon. Donc, on l'a fini par le trouver, mais plutôt par un chemin détourné. C'est un vétérinaire, Richard Schopp, qui a trouvé le premier virus de la grippe. Et ensuite, c'est des auteurs anglais, mais ça a mis beaucoup plus de temps que prévu. Et puis, par contre, les recherches, si elles n'ont pas forcément abouti à trouver le virus de la grippe, ont permis de trouver des choses extrêmement importantes, en particulier l'ADN, qui est le secret finalement de l'information génétique et de la vie. Et incidemment aussi, même sans s'en apercevoir, Alexander Fleming a trouvé la pénicilline alors qu'il cherchait à isoler les bactéries qu'il pensait responsables de la grippe. On ne peut pas commander à un chercheur d'avoir un résultat particulier. Je crois que le chercheur doit chercher et doit s'intéresser encore plus aux résultats anormaux plutôt qu'aux résultats attendus.
En ce début de XXe siècle, grâce à cette course pour mieux connaître l'épidémie, on a donc ouvert la voie à deux révolutions, les antibiotiques et la génétique. La découverte du virus humain de la grippe va nous conduire vers un autre progrès notable, la prévention de cette épidémie saisonnière par la vaccination.
Une vague de grippe déferle sur le pays. Vague ou raz de marée ?
Troisième épisode. Les mystérieuses grippes modernes.
Devant les perspectives hallucinantes de l'épidémie, les actualités françaises ont jugé de leur devoir d'interroger le plus célèbre des spécialistes, le professeur Pierre Dac.
Monsieur le professeur, que pensez-vous de l'épidémie de grippe italienne ?
Je suis contre. Oh là là, résolument contre. Mais d'ailleurs, dès l'apparition des premiers symptômes de cette grippe dite italienne, tenez, voici l'ordonnance que je viens d'établir et qu'il faut faire exécuter immédiatement par le pharmacien ou par tout autre commerçant qui voudra bien s'en charger. Mais voilà, primo, sulfate de parmesan râpé, 125 grammes. Chlorhydrate de gnocchi, une pelletée. Uranium, 1,5 livre. Phosphate de vermicelle, 1 mètre carré. Une louche à dessert, à chaque repas. Deuxièmement, faire de fréquents lavages d'intestin. Troisièmement, absorber le plus possible de vitamine A. Ah, je vous signale que la carotte contient énormément de vitamine A. Il y a donc lieu de prendre beaucoup de carottes. Oui.
Vous quelle forme ?
Hein, en lavage intestinaux. Oui.
Voilà. Et ça guérit ?
Non, mais ça occupe. Et pendant ce temps-là, on pense à autre chose.
À propos, docteur, que pensez-vous des grogues?
Oh, beaucoup de bien, il faut prendre beaucoup de grogues. 8 à 10 grogues par 24 heures, dans la proportion de 10 gouttes d'eau pour un litre de rhum.
Merci, docteur. Bye bye.
À partir du moment où on a pu mettre en évidence qu'il s'agissait d'une infection virale et qu'on a pu isoler, en tout cas concentrer le virus, il devenait possible d'envisager un vaccin. Après, il a fallu trouver comment maintenir en vie ce virus et on s'est aperçu que c'était possible sur des embryons de poulets. Donc le vaccin, il n'est envisageable qu'à partir de 1944, de la découverte par Smith et d'autres, les Anglais, du virus de la grippe humaine. Et d'autres scientifiques arrivent à faire un vaccin. Le problème, c'est que ce vaccin vise une souche de virus à un moment T, et on l'a vu, ce virus a tendance à changer extrêmement vite. Donc les premiers essais vaccinaux était vraiment pas encourageant en 1947 chez des soldats américains, une protection assez minime. Et c'est au fil des pandémies suivantes qu'on va commencer à trouver la bonne méthode qui consiste d'abord à surveiller les virus en circulation, les caractériser et se dire « tiens, un nouveau virus arrive, il faut le rajouter au vaccin et modifier le vaccin pour obtenir une efficacité » modéré, mais visible. Il y a un virus qu'on va appeler H1N1, H pour hémagglutinine, N pour noradrénalinidase, et en fait, il existe un réservoir pour les morceaux du virus. Le virus de la grippe est composé de 8 morceaux, H, N et encore 6 autres morceaux. Le réservoir est lié à la faune avicole, les oiseaux, en particulier ceux qui vivent dans des espaces aquatiques. D'ailleurs, ça leur donne soit pas de maladie, soit plutôt des diarrhées. Mais ces virus-là, c'est ceux qui vont ensuite permettre au virus de la grippe qui circule chez l'homme de se renouveler. Le premier épisode de renouvellement important survient donc en 1956, début 1957, avec une épidémie, une pandémie qui va commencer, qu'on appelle la grippe asiatique.
Actuellement, elle est en Europe. Quelques cas en Europe sont apparus d'abord en Hollande et dans différents points, aussi en Angleterre, en Italie. Maintenant, nous avons quelques cas en France, quelques petits foyers qui ne paraissent pas très étendus.
Elle commence en Chine, puis elle va diffuser en particulier à Singapour, puis ensuite un peu partout, enfin sur l'ensemble de la planète. Et elle est due à un nouveau virus, H2N2, donc H et N ont changé, et parmi les 6 autres morceaux, 5 sont restés identiques à H1N1, un sixième lui aussi vient de changer. Donc c'est 3 nouvelles cartes finalement qui sont redistribuées, dont les 2 cartes essentielles, H et N, qui font que l'homme n'a plus l'immunité qu'il avait lors des épidémies de grippe saisonnière qui étaient dues à H1N1 à l'époque. Ce virus H2N2 va donner une pandémie qui provoque entre 1 et 4 millions de morts selon l'OMS. C'est difficile à chiffrer. H2N2 va éjecter H1N1 de sa niche écologique. Sa niche écologique, c'est l'endroit où le virus vit, en fait, c'est l'homme. Et la présence d'H2N2 fait que H1N1 disparaît chez l'homme. H1N1 canal porcin, lui, va rester, va continuer, mais H1N1 humain disparaît. Voilà, c'est une pandémie pas si grave que ça, qui passe d'ailleurs globalement inaperçue.
"703 morts en une semaine aux États-Unis, la grippe de Hong Kong fait des ravages."
Oui, les services de santé sont sur les dents aux États-Unis, et encore, cette statistique n'est-elle que partielle. Le virus de la grippe de Hong Kong est particulièrement virulent, si j'ose dire, et paraît-il, il est aussi très contagieux.
H2N2 va faire son travail de virus de la grippe, devenir une grippe saisonnière chez l'homme, pendant les années qui suivent, jusqu'en 1968, où on va avoir la grippe de Hong Kong. Nouvelle pandémie, et là, donc une pandémie qui commence en Chine, décidément, et qui va toucher ensuite secondairement Hong Kong. On va avoir là des dégâts assez importants, ça inquiète un peu, et ensuite une diffusion mondiale qui va se faire par l'Asie du Sud, et ensuite les États-Unis, le lien étant le retour des GIs du Vietnam. Donc on a toujours cette association entre mouvements de militaires et mouvements de pandémie et d'épidémie, c'est quand même quelque chose d'assez fréquent. Et donc là, retour des Américains, des soldats américains du Vietnam, ils amènent la grippe avec eux. Et on a une épidémie de grippe aux États-Unis, mais pas encore en Europe. On est en 1968. 1969, un peu d'inquiétude. Mais l'Institut Pasteur considère que finalement ça va bien. Et on arrive à la fin de l'année 1969, l'hiver arrive, et là, contre toute attente, on a 25 000 morts en France. Alors ce chiffre, on l'a pas eu en 1969, c'est Arnaud Fontanet, épidémiologiste du Conseil scientifique, qui a fait l'étude, mais des années après, on est dans les années 2000. Donc c'est vraiment une épidémie extrêmement meurtrière. Heureusement, elle a été courte, puisqu'il y a 5-6 000 morts en janvier, puis ensuite ça se calme. H3N2 aura quand même eu une particularité, c'est d'éliminer H2N2. H3N2, lui, s'est maintenu, et il donnait une sorte de grippe saisonnière. Et puis H1N1, vous vous souvenez, avait disparu à la grippe asiatique de 1957-58. 1977, arrive une nouvelle grippe, qu'on appelle la grippe russe. En regardant de plus près, elle est plutôt chinoise. Et cette grippe russe a une particularité, c'est qu'elle touche essentiellement des sujets jeunes. Elle circulera sur l'ensemble de la planète, elle fera 700 000 morts, ce qui n'est pas négligeable. Mais là, les scientifiques vont s'apercevoir que c'est H1N1, le virus de la grippe espagnole. Plus tard, quand on saura séquencer l'ensemble de l'ARN de ce virus, on s'apercevra que c'est le H1N1, branche humaine de 1957, celle qui avait disparu. Donc là, on a un virus qui n'a pas muté pendant les 20 ans, entre 1957 et 1977. Donc on est certain que ce virus, il n'est pas naturel. On l'appelle « the frozen pandemic », la pandémie congelée. Enfin. Et ce virus de la grippe russe n'est autre qu'un virus qui a été conservé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deux hypothèses, personne ne peut trancher. La première, c'est un essai vaccinal en Chine qui a mal tourné et ensuite ça a diffusé. La deuxième, c'est une fuite de laboratoire par, je sais pas, manipulation effectuée dans un laboratoire sur un virus qui avait été conservé pendant 20 ans congelé.
Voilà qu'une nouvelle épidémie menace l'Europe. Le virus, sans doute un dissident, se serait échappé d'un laboratoire soviétique où on faisait justement des recherches sur un vaccin. Alors y a-t-il un moyen efficace pour se protéger? Mouchoir en main, Jean-Paul Cadoret a demandé quelques conseils au docteur Inter.
Il y a une chose à faire, c'est se faire vacciner. Il y a fabriqué par les grands instituts français du virus atténué ou du virus tué, plus exactement, dans les vaccins disponibles. Ceux qui sont nés avant 57 ont des chances d'avoir des anticorps, les autres ont intérêt à se faire vacciner. Et puis les personnes âgées ont oublié leurs anticorps et ont intérêt à se faire revacciner.
8h13.
On n'a donc pas l'explication, ça montre qu'on ne s'intéresse pas trop aux causes et c'est pas une priorité, parce que moi j'aurais bien aimé avoir l'explication d'une épidémie ou d'une pandémie qui a donné quand même 700 000 morts. Ça me paraît quand même quelque chose d'important. Mais pour moi, ça montre que dès lors qu'on commence à garder des virus dans nos congélateurs, il y a quand même un risque de les voir ressortir à un moment ou un autre. Et au moment où ils ressortent, comme ils sont en décalage temporel, notre immunité n'est plus totalement effective. Déjà, un virus qu'elle n'a pas vu depuis 20 ans, elle a un peu oublié. Mais en 20 ans, il y a une population qui est née, qui a grandi et qui est complètement susceptible. les personnes de plus de 20 ans ou 25 ans avaient connu le virus, donc finalement faisaient pas de forme grave. Mais par contre, les jeunes de 20 ans faisaient des formes calamiteuses, mais quand même assez carabinées. Et il y avait pas mal de morts. Donc là, quelque chose d'extrêmement préoccupant, on va dire.
Hôpital de Bray à Paris. Rien que ce matin, 150 patients ont poussé la porte des urgences pédiatriques. Des enfants avec un train de fièvre ou un nez qui coule et des parents sur les dents avec en tête une obsession, la grippe A. Ici, depuis une semaine, les jours se suivent et se ressemblent. Une affluence record, 80% d'activité en plus pour les médecins. Des médecins qui en appellent à plus de raisons concernant cette grippe.
2009, nouvelle pandémie. Déjà, quand même, par rapport aux autres pandémies, elle est extrêmement bénigne. Par contre, effectivement, on s'est fait un peu peur parce qu'on a vu débarquer cette pandémie pratiquement simultanément au Mexique et aux États-Unis. Mais là, on s'est aperçu qu'on avait affaire à un nouveau virus. H1N1. H1N1, nouveau virus. On l'a vu quand même un certain nombre de fois, cette histoire de H1N1. On a vu qu'il était le virus de la grippe espagnole. Une lignée est passée chez le porc, une lignée est passée chez l'homme. Chez l'homme, il a tenu jusqu'en 1957. Il a disparu de 57 à 77. Il est ressorti sous forme de grippe russe non naturelle en 1977. Et voilà maintenant qu'on retrouve un H1N1. Alors, c'est pas le même. Ce H1N1 de 1977, il a continué un petit peu gentiment sous la forme de grippe saisonnière. Mais un autre H1N1 était là. Et en fait, ce H1N1 se rattache beaucoup plus à la lignée porcine. Et pour être plus précis, c'est quand même un virus qui a largement fait l'objet de réassortiments. Et en fait, cet ensemble-là, c'est un espèce de mélange, de jeu de cartes rebattu, où il y a à la fois des éléments de grippe porcine, des éléments de grippe humaine, y compris le virus de la grippe qui circule à l'époque, qui est du H3N2, et des éléments de grippe aviaire. Cet ensemble-là se recombine d'abord dans un paquet de 6 qui circule chez le porc aux États-Unis, mais deux cartes de ce jeu viennent d'Europe et d'Asie, et on ne comprend pas très bien comment toutes ces cartes se retrouvent au même endroit, au même moment. L'hypothèse qui a été avancée, mais qui est une hypothèse qui ne peut pas être étayée par des éléments, c'est-à-dire que ça reste une hypothèse, même si elle est privilégiée, c'est une recombinaison dans un élevage de porcs au Mexique avec des porcs qui seraient arrivés d'Europe, d'Asie, et tout ça se serait mélangé. Mais on ne trouve pas sur le continent américain les ancêtres sur 2 des 8 cartes du virus H1N1 2009. Bon, l'autre hypothèse, c'est que ce soit un virus fabriqué en laboratoire. C'est plus facile d'aller chercher des bouts à droite à gauche. Mais cette hypothèse n'a fait l'objet d'aucune investigation. Alors pourquoi on s'amuserait à fabriquer des virus en laboratoire? Ben pour faire des vaccins, et en particulier, là, visiblement, ce qu'on visait, c'était le porc. Mais on n'a pas les éléments, donc il y a ces deux hypothèses. L'une a été largement mise en avant, l'autre n'est pas forcément évoquée. Elle est techniquement possible, mais il n'y a pas d'argument, ni pour l'une, ni pour l'autre. Ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans l'investigation des épidémies. C'est que quand il y a des questions comme ça, on ne se donne pas forcément les moyens de les résoudre, et ça finira par être un problème pour l'humanité, de ne jamais savoir quand il y a une pandémie, s'il n'y a pas une erreur humaine en amont.
En ce début de XXIe siècle, ce genre d'erreur humaine, engendrée par des expérimentations trop audacieuses, incontrôlées, incontrôlables, pourrait nous conduire à notre perte. C'est ce que vous allez découvrir dans ce quatrième et dernier épisode.
Quatrième et dernier épisode, vers un futur grippé.
On a actuellement une épizootie, effectivement, donc plus une panzootie. Une épidémie chez l'animal au niveau de la planète. C'est une sorte de pandémie animale de grippe. C'est ce qu'on appelle la grippe aviaire.
16 millions de volailles ont été abattues en France depuis le début de l'épidémie de grippe aviaire en novembre dernier, et c'est un chiffre record.
Oui, un chiffre record et une crise sanitaire inédite.
On voit bien qu'il y a des problèmes dans les élevages du sud-ouest de la France, de canards, de volailles en général. Et c'est pas qu'un problème français, c'est un problème mondial. Et actuellement, le virus le plus en vue, c'est un H5N8. Mais il y en a eu beaucoup. Je vais pas tous les citer, mais je vais en citer un qui a un peu plus inquiété les autres. C'est le H5N1.
France Inter.
L'épidémie de grippe aviaire est cette fois bel et bien arrivée en Europe. Ce matin, le laboratoire britannique qui a expertisé les canards morts la semaine dernière en Roumanie a livré ses conclusions et elles sont formelles. Les volatiles sont bien morts de la grippe aviaire et le virus détecté, c'est le H5N1, la même souche qui a tué plusieurs milliers de dindes il y a quelques jours en Turquie et surtout qui a fait une soixantaine de morts depuis 2 ans en Asie.
Ce virus-là a commencé à passer chez l'homme. Il y a quelques centaines de cas d'infection à H5N1 chez l'homme. Ce sont des infections graves, avec une létalité, c'est-à-dire un nombre de décès sur le nombre de cas qui est élevé, mais par contre, des virus qui passent relativement mal d'homme à homme. Donc c'est plutôt des personnes en contact avec les élevages qui sont tombées malades. Et à partir de là, les scientifiques et certains politiques ont commencé à se dire « Mais est-ce que c'est pas la prochaine pandémie ?» Et c'est là qu'on va se retrouver dans une situation un peu compliquée où on va se mettre à rechercher, à vouloir comprendre quelle pourrait être la nouvelle pandémie. Mais ce faisant, on va se mettre dans des conditions où on peut aussi créer soi-même la nouvelle pandémie. D'ailleurs, l'OMS, à l'époque, annonçait pour 2006 une pandémie qui ferait 150 millions de morts. Finalement, ça n'a pas eu lieu. Mais il y a eu une vraie peur et une vraie préparation dans tous les pays.
C'est écrit noir sur blanc dans Le Monde, une pandémie de grippe aviaire émergera un jour ou l'autre. C'est le professeur Didier Houssin, délégué interministériel chargé de la lutte contre cette maladie, qui l'affirme. La France doit donc se préparer comme si la pandémie était pour demain.
Est-ce que ça va se passer? Est-ce que ça va pas se passer? Moi, je peux pas répondre. Mais par contre, ceux qui veulent répondre vont être amenés à faire des recherches de plus en plus poussées sur la grippe. Alors, un tout petit peu avant, il y avait déjà cette grippe espagnole. Pourquoi il y avait eu la grippe espagnole? Donc, les premières recherches qui peuvent inquiéter un peu, c'est non seulement d'essayer de retrouver le virus de la grippe espagnole. Alors ça, si on le trouve sous la forme de brins d'ARN, conséquence, et on dit, voilà, la séquence des brins, en soi, ça n'est qu'une série de lettres, de symboles sur du papier. C'est compliqué de reconstituer un virus en entier. C'est pas très, très inquiétant. Après, il y a d'autres chercheurs, plus récemment, au début des années 2000, qui ont, là, été plus loin, qui sont allés jusqu'à reconstituer, rendre vivant ce virus. Imaginez ce qui peut se passer si ce virus s'échappe. Donc, on est sur la problématique de la sécurité dans les laboratoires. Quand on envisage un projet de recherche, on envisage l'intérêt, on demande un financement et on explique ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire, comment on va le faire, etc. Et puis, on s'intéresse à la sécurité du laboratoire. On va donner toutes les informations pour rassurer le financeur, le bailleur de fonds, qui peut être l'Union européenne, les États-Unis, le National Institute of Health, par exemple. Et on va lui dire, voilà, on va prendre toutes les précautions, on va travailler dans tel type de laboratoire, et il y a peu de risques que le technicien ou la personne qui travaille, le doctorant, se contamine. Et donc, on a un ensemble de précautions. Mais le risque, jusqu'ici, c'était un risque de type... Une personne se contamine, c'est triste, peut-être si c'est un agent pathogène très dangereux, Ebola, bon, la personne peut en mourir, donc il faut quand même éviter au maximum ce risque. Mais ça reste, s'il y a une chance ou un risque sur 1 million d'avoir ça, on va pas s'interdire une recherche qui est importante. Mais imaginons maintenant qu'au lieu d'avoir une maladie chez une personne qui travaillait directement avec le virus, on crée ce qu'on va appeler un virus potentiellement pandémique. Ben, un risque une fois sur 1 million dans une manip n'est plus tolérable. Parce que si c'est vraiment un virus pandémique, il va diffuser à l'ensemble de la planète et provoquer éventuellement des millions, des dizaines, des centaines de millions de morts. Et donc là, un risque sur un million, une fois ça passe, deux fois ça passe, et puis à un moment donné, ce sera fait dans des moins bonnes conditions, et on peut imaginer qu'un virus puisse se mettre à diffuser. On peut même imaginer qu'on ne mette pas plus en danger que ça le personnel du laboratoire, puisqu'il peut attraper la maladie et faire des symptômes pas trop graves, même ne pas avoir de symptômes, mais la transmettre, et puis petit à petit, le virus se transmettant peut donner des formes plus graves et peut entraîner une pandémie. Donc, travailler sur des virus potentiellement pandémiques en laboratoire est quelque chose qui devient très inquiétant. Reconstituer le virus H1N1 de la grippe espagnole, le risque de que ça parte est faible, mais on ne sait jamais. Et on se rappelle, on est en 2004, de cette erreur d'adressage en quelque sorte qui fait que des laboratoires du monde entier ont reçu du virus H2N2 quand H2N2 ne circulait plus. Il avait été conservé quelque part et erreur d'envoi, erreur de manipulation, ça a été envoyé et il redevenait donc potentiellement pandémique. C'est rien passé, tant mieux. On se rappelle de la grippe russe de 1977, où là, on sait que c'est un virus qui avait été conservé de manière non naturelle, qui a rediffusé 20 ans après avoir disparu de la circulation chez l'homme, donc avec des gens qui avaient perdu l'immunité. Donc, créer des virus, travailler sur des virus potentiellement pandémiques ou les créer devient quelque chose d'extrêmement dangereux. L'idéal, ce serait de réglementer. Mais qui prend la décision et qui maîtrise ça? La décision, c'est les politiques. Mais est-ce que vous pensez vraiment que c'est le métier de cette personne-là de comprendre le danger que font courir ce qu'on appelle des gains de fonction? Gains de fonction, c'est justement prendre un pathogène, un virus, une bactérie, et le modifier de manière à ce qu'il soit plus agressif, plus pathogène, ou qu'il soit capable d'être plus transmissible, ou qu'il soit transmissible sur une espèce où il ne circulait pas. On prend un virus aviaire, on le donne au furet, et pourquoi pas à l'homme. Donc ça, c'est des expériences de gain de fonction. Aux États-Unis, il y a eu une discussion là-dessus. Et cette discussion a fini par aboutir à un moratoire qui touchait d'ailleurs les virus de la grippe et les coronavirus. Et il a été mis en place en 2014. Déjà d'emblée, il y a eu une modification de manière à ce que plus de la moitié des programmes qui avaient été interrompus à cause de ce moratoire puissent reprendre. Parce qu'il y a eu une pression des scientifiques qui ont dit « mais non, c'est pas possible, c'est stratégique, c'est important, c'est tout ce que vous voulez ». Et puis en 2017, ce moratoire a été arrêté. On a juste mis en place une espèce d'évaluation un peu plus poussée du risque que pouvaient comporter ces gains de fonction. Dans une histoire comme ça, que peut-on faire pour limiter les contaminations et limiter ce risque, certes tout petit? Chaque risque individuel est tout petit, mais considérable. Et sur des années qui passent et des laboratoires de plus en plus nombreux qui travaillent, cette accumulation de micro-risques devient un risque important. Si on y rajoute une compétition entre les laboratoires, les risques augmentent encore. Donc, on est dans des circonstances qui m'évoquent un peu le risque nucléaire. C'est-à-dire que, a priori, il reste très bas. Mais plus il y a de centrales nucléaires, plus il y a d'années de fonctionnement, plus il peut se passer quelque chose, même une guerre autour d'une centrale nucléaire. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Et là, au minimum, il faut une réglementation internationale, une sûreté bactériologique, virologique, donc au même titre qu'on a une sûreté nucléaire mondiale. Un des éléments qui rend ces expériences de gain de fonction extrêmement inquiétantes, c'est effectivement que les laboratoires sont concurrents. Certains se mettent ensemble pour travailler une question, mais ils sont de toute façon concurrents d'un autre groupe. L'idée est d'aller vers la publication d'un article le plus spectaculaire possible. La recherche devient une compétition où l'important, c'est pas de faire avancer pas à pas les connaissances de manière globale, mais d'être le premier à avoir trouvé telle chose, un peu comme les journalistes vont essayer d'avoir le scoop. Mais là, les chercheurs qui vont chercher le scoop peuvent mettre en danger l'humanité complète. Et donc, on est dans un mode de fonctionnement qui est absurde de la recherche, mais ça, c'est une autre histoire. Si on devait faire la synthèse de ces quatre épisodes, on voit que d'abord, on étudie un problème sur une période d'un peu plus de 100 ans. Et là, toute la recherche se mène sur cette période-là. Lors de la période pandémique aiguë, finalement, la recherche n'a pas eu le temps de se mettre en marche. Elle avait un handicap important, elle avait énormément de connaissances à acquérir. Des connaissances de fond, qu'est-ce qu'un virus, comment se transfère l'information génétique, et finalement, on va avoir besoin de cette recherche fondamentale avant d'appliquer cette recherche. Et la recherche fondamentale va nous amener, par exemple, à découvrir l'ADN, à découvrir les antibiotiques. Petit à petit, cette recherche va se cibler sur la fabrication de vaccins, et donc amener les laboratoires non seulement à conserver de plus en plus de souches virales, de prélèvements, mais en plus, petit à petit, à construire des nouveaux virus ou à les modifier. Et là, on a changé de registre, on n'est plus simplement à observer la nature, on est en train de la modifier. On la modifie de manière supposé confiné, c'est-à-dire que ça se passe à un endroit et ça n'en sortira pas. Et on voit que, ben non, ça sort quand même toujours, plus ou moins, pas toujours, mais dans un certain nombre de cas, sous la forme de pandémies comme dans la grippe russe de 1977, sous la forme d'un grand oups de contrôle qualité entre laboratoires, comme cette histoire de H2N2 qui a été diffusée à des milliers d'exemplaires, et sous la forme de manipulations qui sont présentées comme bien contrôlées, magnifiquement maîtrisées, mais dont on sent bien que il faudrait pas grand-chose pour que un jour une pandémie survienne liée à ce type de manipulation. Et ces manipulations s'appellent le gain de fonction. Et ce qu'on voit, c'est que le côté politique, le côté décideur n'est absolument pas capable actuellement, n'a pas pris conscience du problème que cela peut poser et finalement reste très dépendant de la parole de certains scientifiques qui tiennent le haut du pavé parce que justement ils mènent ces manipulations qui sont valorisées d'un point de vue scientifique par les plus grandes revues scientifiques. Et donc là émerge un nouveau problème qui est que on ne savait rien des pandémies, donc on savait pas bien y répondre. On a commencé à savoir plus de choses. Et puis maintenant, on s'aperçoit que peut-être on est en train d'augmenter le risque en allant de plus en plus loin vers des manipulations qui sont censées augmenter notre savoir, mais aussi entraînent une prise de risque.
Mécanique des épidémies, troisième saison, la grippe. Par Renaud Piarou. Un podcast réalisé par Clément Nouguier, conseillère au programme Camille Renard, avec la collaboration de Pascaline Bonnet. Documentaliste Ina, Arnaud Plançon. Prise de son, Manuel Couturier. À suivre, dans la quatrième saison de Mécanique des épidémies, Renaud Piarou vous conduira jusqu'aux origines du coronavirus.